で仕留めたら10ドルでどうだ。
If you kill him in one shot, he give you 10 bucks.
How's that? You can't feel anything, can you?
Do it! てめえ、こうやってやんだよ、バカ野郎！指出せ、この野郎、ほら！
You told them you'd let them have the territory. Now why would you do that for these bucket jabs?
Fucking jab ぐらい分かるよ、バカ野郎。
Salut tout le monde et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma avec donc en introduction la bande-annonce de Brother, Aniki mon frère, car on va parler donc de Kitano, Takeshi Kitano, qu'on a déjà parlé en partie avec notamment Jonathan sur l'émission sur Hanabi, mais là on va revenir un peu plus sur sa carrière et notamment forcément sur ses, sur son style, sur son jeu, parce que c'est un acteur, c'est un réalisateur, c'est un artiste peintre et beaucoup de choses à la fois cet homme. Et avec moi j'ai Sébastien. Comment tu vas, Sébastien?
Eh bien très très bien, ravi de parler de Takeshi Kitano et de Beat Takeshi et de tous les autres personnages qu'il peut être durant sa vie et qu'il est encore.
Exactement, parce qu'on va parler quand même d'une sacrée dualité dans ce simple corps qui est à la base Takeshi Kitano, mais qui est également donc Beat Takeshi, le présentateur télé, et encore à travers ses différents sketchs et même au-delà de ça. Alors pour revenir un petit peu plus sur Takeshi Kitano, c'est vrai qu'en fait il faudra également revenir sur Beat Takeshi. Mais tout d'abord, Takeshi Kitano est né le 18 janvier 1947 dans le quartier Umejima, dans l'arrondissement d'Adachi à Tokyo. C'était donc un quartier donc forcément qui avait été bien touché par la guerre. On est donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est en 1947. Il a grandi donc dans un Tokyo assez dévasté, avec notamment ses trois frères dans une toute petite maison, avec sa mère et son père. D'ailleurs c'était un père souvent absent, qui, la légende veut qu'il a eu des affiliations avec certains Yakuza, bandes de Yakuza dans ces coins-là, parce que c'est vrai que Adachi était un endroit réputé comme étant un endroit assez mal famé. Et donc il a connu également, donc très gamin, la faim. Il a, pour lui par exemple, une boule d'onigris c'était un repas. Sa famille a souffert forcément de la condition économique de l'époque, de la restructuration du pays, notamment forcément aussi de la mise en place du gouvernement par l'armée américaine. Et donc forcément ses parents travaillaient beaucoup pour survenir à leurs besoins.
Oui, avec comme tu l'as dit quand même un père assez absent, voire violent,
tyrannique,
tyrannique.
Oui.
Disons-le. Et une mère pas forcément mieux, en tout cas très exigeante, qui vient certainement de ce contexte dans lequel ils ont vécu, mais une exigence sur l'avenir professionnel de leurs enfants, oui, qui les rêvait ingénieurs, et voilà, ça encore pendant très longtemps.
Sa mère voulait absolument qu'il soit ingénieur, ouais, et elle a eu du mal à accepter son destin.
Même une fois qu'il
destin.
A commencé à faire animateur télé, etc., l'acceptation n'était pas là pour sa mère.
Et surtout qu'elle ne comprenait pas l'humour de Kitano. Alors c'est vrai que son père a été peintre en bâtiment, donc il travaillait énormément. Et Kitano a grandi, disons-le très clairement, en fait, dans un milieu donc assez mal famé. C'est aussi un jeune rebelle durant sa jeunesse. Il a grandi donc avec des enfants yakuza, donc avec forcément aussi des personnes assez éloignées de la société, des petites frappes, et faisait assez suffisamment les 400 coups. Oui. D'ailleurs, l'arrivée du Kamishibai, donc c'est le théâtre d'images ambulant japonais, donc c'était une personne qui avait notamment un espèce de vélo avec à l'arrière une espèce de grosse bagage où on retrouvait donc des images, où il racontait des histoires à travers ces images. Le Kamishibai, en fait, quand il arrivait, en fait, ça le sortait un peu de ce quotidien morose, mais comme il n'avait pas d'argent, donc Kitano lui disait lui-même, en fait, il feintait de jouer à côté pour lancer sa balle et se rapprocher du Kamishibai pour voir un peu le spectacle. Et d'ailleurs, comme c'était un quartier mal famé, donc ça arrivait souvent que le Kamishibai, en fait, se faisait voler ses
voler
affaires.
Voler son matériel, oui.
Et les jeunes malfrats faisaient leur propre Kamishibai à côté. C'est donc un contexte assez rude que Kitano a grandi dans ce milieu, mais à partir des années 60, donc période de renaissance du Japon économiquement parlant, Kitano, en fait, va notamment découvrir via la télévision ceux qui vont forcément, je pense, devenir ses mentors à travers l'humour, à travers le comique. Donc ça va être Charlot, ça va être Laurel et Hardy, notamment sur le côté burlesque, ce qui va forcément s'en inspirer par la suite. Mais entre-temps, il va donc étudier à l'université Meiji, il va se passionner pour la littérature japonaise mais également française, et c'est aussi à partir de ce moment-là où il va rejoindre notamment les mouvements contestataires de 68. Alors, pas totalement.
Sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. C'est
voilà,
ça qui est très
pas
avant.
Totalement pour des raisons politiques. D'ailleurs, il le disait lui-même, il chantait des chants militaires alors que c'était des mouvements contestataires anti-militaires, mais il connaissait pas le sens des paroles de la chanson.
Il se dit, bon, on va faire une révolte contre le gouvernement. Voilà, bah, le fond de mai 68, il l'avoue lui-même qu'il ne l'avait pas vraiment à
c'est
ce moment-là.
Ça.
Mais il dit, bon, bah, on va faire un truc contre le gouvernement, ça va être super. Et puis, il s'est aperçu effectivement après qu'il chantait pour contester des chants militaires, donc parfaitement presque patriotique.
Voilà.
Donc, voilà. En tout cas, il y a quand même ce désir déjà de désordre, quoi, quand même.
Oui, il y a toujours ce côté rebelle, le côté chaotique, désordre, et qui va forcément, je pense, aussi par la suite, en fait, continuer dans ses œuvres. Alors, forcément, les cours l'ennuient, la politique l'agace. Il préfère donc traîner dans les clubs de jazz de Shinjuku. Et c'est plus tard qu'il va découvrir notamment les cabarets donc d'Asakusa. Et son premier travail notamment sera celui d'un garçon d'ascenseur dans un cabaret français. Et d'ailleurs, c'est là où il va découvrir vraiment l'humour, les spectacles, les sketchs. Et donc, il va décider de se lancer par le biais d'un ami. Et d'ailleurs, c'est un comédien, Senzaburo Fukami, qui va lui offrir donc sa première chance au jeune Takeshi. Et donc, en fait, c'est un concours de circonstances, car en fait, une personne était absente, malade. Et du coup, en fait, il va le remplacer au dernier moment. Et donc, c'est de la totale improvisation. Et Takeshi Kitano, en fait, va décider de se travestir et de faire une espèce de jeune femme en perdition face au public, et ça va marcher absolument. Son premier succès est directement en place, il est lancé, ça va donc continuer par la suite à lui donner des rôles sur des scènes, et c'est vraiment à partir de 72 qu'il va le fonder en fait le duo Two Beats avec donc son compère Jiro Kaneko, qui donc lui se fait appeler Beat Kiyoshi, et donc les Two Beats. Et ben le deuxième, c'est Beat Takeshi.
Tout à fait. Un nom qui va garder par la suite, qui va être un nom de scène, mais aussi le nom pour lequel, mis à part Furio, le premier film dans lequel il apparaît en tant qu'acteur, sinon ça va être son nom d'acteur officiel. Voilà. Et pour revenir, voilà, on est typiquement sur un spectacle humoristique qui n'a pas forcément d'équivalent en France et en Europe, qui s'appelle le Manzai, et qui est vraiment un duo de comiques avec un seul micro, donc il y a déjà ce truc
cette
drôle,
bataille.
Cette bataille d'avoir qui, avoir le micro, qui va parler. Et c'est de la parole continue. Voilà, c'est de l'improvisation et ça ne doit jamais s'arrêter de parler. Avec, évidemment, comme ils sont deux, généralement, en tout cas c'est le cas des Beats, une dualité, hein, un contraste entre les deux personnages. Et puis ça va être surtout l'occasion pour eux, sous couvert de l'humour, d'aller frapper tous les maux de la société japonaise, tout ce qui peut mal aller, toutes les souffrances qu'il peut y avoir. Et voilà, dans une performance, puisque voilà, encore une fois, c'est de la parole non-stop tout le long du sketch.
Et c'est quasiment de l'improvisation aussi, d'une certaine manière. Et donc... ça marche à fond, ils se font reconnaître au niveau national et forcément les portes de la télévision les ouvrent au succès national dès 1976 donc, et la carrière donc, de Beat Takeshi est totalement lancée. Alors il commence à apparaître notamment dans certains petits projets télévisuels mais également cinématographiques, mais c'est surtout donc un rôle et c'est peut-être même son premier vrai rôle qu'il va avoir au cinéma, non pas sous le nom de Beat Takeshi, mais finalement sous le nom de Takeshi Kitano, en 1983 avec Furio, le film de Nagisa Oshima, et donc il va notamment donc jouer avec un certain David Bowie.
Tout à fait. Quelle entrée en matière, quoi.
C'est
voilà,
immense,
quelle entrée,
oui.
Quand même sur Oshima, qui est aussi un grand cinéaste,
immense réalisateur
japonais, avec David Bowie, avec ce film, qui est culte et très particulier dans cette manière de filmer la guerre, quoi, au Japon, qui est juste presque un huis clos de rapport de force entre des personnages.
Le contraste entre la société occidentale et japonaise.
Et japonaise, ouais. C'est un film culte. culturel, quoi. Vraiment, ouais, c'est un film culturel. Et donc, Kitano a son premier rôle dedans avec un soldat quand même assez sadique, hein, avec, qui s'occupe de pas mal de scènes de torture sur David Bowie durant le film.
Le sergent Genjo Hara.
Tout à fait, sergent Hara. Et qui livre une performance qui est quand même déjà un contre-emploi de l'image qu'il, qu'il envoie déjà de par le comique et l'animateur télé qu'il a. Enfin, tout le monde le connaît comme humoriste. Ce qui crée un revers de médaille pour ce rôle, que lorsqu'il est projeté dans les cinémas au Japon, tout le monde rigole quand apparaît Kitano. Ce qui lui colle un peu une mandale, quoi, en se disant mais mince, quoi, je. Non, quoi, ce n'est pas l'effet que je suis censé produire, ce n'est pas ce que mon personnage est censé produire au spectateur. Et là, il commence à avoir une remise en question très grande d'une peur d'enfermement de cette image de comique burlesque qu'il a.
Exactement, exactement. Et ça se voit en fait par la suite dans sa filmographie, en fait. C'est-à-dire qu'il va. Forcément, après Furieux, il avait déjà préparé d'autres rôles dans des petits films comiques qui ne sortiront forcément jamais du Japon, notamment en 83, 85, 86. Et en fait, un autre réalisateur va lui redonner une chance, donc Kinji Fukasaku, avec un projet qui s'appelait Violent Cop, sorti en 89. Et en fait, Fukasaku va tomber malade et aussi a eu de gros problèmes d'agenda avec Kitano, parce que Kitano, c'est genre 7 émissions en même temps.
Par semaine.
En plus de jouer dans des films. Et avec Violent Cop, en fait, il va arriver encore, on va dire, une petite lumière divine envers ce bonhomme qui est Kitano. Car en fait, il va pas seulement jouer Violent Cop, il va réaliser ce film. Il va donc remplacer Fukasaku qui est tombé malade. Il s'est proposé de diriger ce film et en fait, la production l'a accepté. Et ce film, en plus, va être un succès commercial. Il va donc marquer le début de carrière de réalisateur de Kitano. Et malgré... on va dire malgré son aspect Beat Takeshi qui est toujours omniprésente, forcément, parce que c'est aussi l'une des choses les plus importantes qu'il faut signaler, c'est que, et ça va être le cas par la suite, c'est qu'en fait, Beat Takeshi a besoin de Kitano et Kitano a besoin de Beat Takeshi pour survivre financièrement.
Tout à fait. Et alors, Violent Cop, on arrive, réalisateur, et il faut quand même bien avoir en tête que Monsieur Kitano n'a jamais réalisé de film, n'a jamais fait d'études de cinéma. Le seul rapport qu'il a avec de l'audiovisuel, c'est en tant qu'acteur ou en tant qu'animateur ou humoriste. Voilà. À la télévision.
Après, il avait l'habitude de créer des sketchs, de développer des sketchs.
Alors, en création, bien sûr, mais en termes de gestion d'équipe, il ne sait pas faire.
Voilà.
C'est la première fois. Et donc, on se retrouve, il arrive sur le tournage et va bien falloir diriger cette équipe technique qui est là, ce qui est un sacré défi. Et il est forcé d'admettre, en voyant Violent Cop encore aujourd'hui, que c'est... un sacré tour de force et on a du mal à croire que c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de cinoche de sa vie, quoi. Tellement, comme tu dis, en termes de création, en termes de composition de plans et tout, de montage, le montage dont il s'occupe lui-même sur ses films, Kitano,
il
y a un sens du rythme qui est quand même incroyable dès Violent Cop.
Oui, il y a une facilité de travailler en fait sur le... On s'en en parlera forcément un petit peu plus longuement après, mais notamment l'idée de travailler sur le plan séquence, les chutes de rythme et le travail aussi forcément sur le changement de ton dans ses films. Et donc, c'est la porte d'entrée enfin pour lui de devenir réalisateur. Il va donc continuer par la suite, notamment avec Jugatsu. On va le retrouver notamment avec Sonatine, Getty Nani. Et c'est une chose aussi très intéressante, c'est que Kitano ne va pas forcément s'arrêter là-dessus en tant que réalisateur. Il va rester acteur et même pour d'autres films. Il va commencer à apparaître aussi au niveau international dès 95 avec Johnny Mnemonic, car ils vont quand même le signaler, c'est que donc un de ses premiers films américains, c'est Johnny Mnemonic, un film de science-fiction presque pré-cyberpunk avec notamment un certain Keanu Reeves dedans.
Et, bah tiens donc.
Et donc ouais, c'est vraiment en fait le cas très intéressant, c'est que il va avoir beaucoup de mal en fait à sortir de l'aura de Beat Takeshi. Et peut-être le moment charnier, ce sera donc 97 avec Hanabi, car grâce à Hanabi, il va recevoir le Lion d'Or à Venise. Et là, au Japon, on commence à se dire « Ah oui, c'est pas qu'un simple comique ». C'est pas qu'un simple présentateur, si c'est aussi un grand réalisateur.
Oui, qui avait déjà eu quand même à Cannes Sonatine qui avait été projeté et où les spectateurs n'en revenaient pas de ce qu'ils avaient vu en se disant on va voir un film de Yakuza et on en reparlera tout à l'heure. C'est loin d'être juste ça, quoi. Oui. Et puis il y a eu une volonté de de défaire les codes qui est évidente dans Sonatinée. Mais effectivement, c'est Anabi et son lion d'or à Venise qui le consacre à l'international. Et bien avant qu'il soit vraiment consacré en tant que réalisateur considéré comme tel au Japon, quoi. C'est avant tout à l'international qu'il commence à être reconnu. Et c'est parce qu'il commence à gagner des prix dans des festivals européens qu'au Japon, on se dit « Ah, peut-être qu'il a une légitimité ». En tout cas, lui le dit lui-même, il a commencé à sentir cette légitimité au moment où il a reçu ce prix pour Anabi, quoi.
Et surtout qu'il a eu aussi l'aval d'un des plus grands réalisateurs japonais de l'histoire, Akira Kurosawa.
Quel aval
en plus, surtout quand tu te fais inviter par Kurosawa alors qu'il est en survêt des Los Angeles Lakers chez lui en train de fumer une clope, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est surtout qu'en fait il va continuer à collaborer aussi avec les plus grands de sa période. On va le retrouver avec notamment Oshima dans Tabou. On va le retrouver également aussi forcément avec Fukasaku avec l'immense Battle Royale en 2000. Et il va forcément revenir avec le Battle Royale 2, même si Fukasaku est décédé entre temps et sera remplacé par son fils Kenta. C'est à partir de 2003 aussi, il va avoir une vraie reconnaissance, on va dire, au niveau national dans son pays, avec un vrai succès commercial, qui est d'ailleurs encore son plus grand, Kazuto Ishii, parce que là, il recrée en plus une légende du sabre,
du mythe populaire japonais,
qui a déjà été utilisé par pas mal de réalisateurs des années 60.
Et qui est son film le plus hommage à Kurosawa, en tout
oui,
cas.
Oui, clairement, clairement.
Kurosawa fait évidemment partie de ses références, de ses grands maîtres. Je dis ça parce que il faut quand même aussi avoir en tête que Kitano est loin d'être un cinéphile, quoi, aussi. Hein.
Ah, c'est-à-dire oui, il ne regarde pas beaucoup de films.
Il ne regarde pas beaucoup de films, voilà. C'est quand même... Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses à comparer, même par rapport à ce qu'on puisse faire à l'époque en Europe, etc., dans les films de Kitano. Mm. Or, il faut bien admettre que c'est pas quelqu'un qui va puiser 5000 références qu'il a vues dans sa vie et les, puiser dans ses, et les mettre dans ses films, quoi. En tout cas, Kurosawa fait partie de ses références et Zato Ishii, c'est clairement son hommage direct au réal.
Exactement. Alors, c'est vrai qu'en fait, il va toujours, en fait... avoir une carrière qui va marquer au fer rouge, en fait, notamment, donc, comme on parlait des genres des films, notamment le Yakuza, mais surtout avec des œuvres... qu'on va voir en fait beaucoup plus intimiste et poétique à travers sa carrière et surtout forcément à travers ce qu'il a vécu, on va dire, comme expérience, je dirais même proche de la mort. Mm. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc Violent Cop, un morceau de Daisaku Kume. Et voilà, donc c'était un extrait de Violent Cop. Donc, deuxième partie, on va donc revenir un peu plus sur Kitano, et je dirais même l'accord des contraires à travers ce sacré personnage, car c'est un réalisateur très singulier. Takashi Kitano est quand même connu pour des œuvres à la fois violentes, donc Sonatine, notamment Hanabi avec son introduction, Zatoichi ou encore la série des Outrages, mais aussi par ce côté comédie dramatique, comme le peut l'être L'été de Kikujiro ou encore Achille et la Tortue, dans sa globalité. Ce qu'il faut revenir un peu plus là-dessus dans la carrière de Kitano, c'est qu'en fait, il y a eu un sacré tournant en fait, dans sa vie. En août 1994, en fait, il a eu un grave accident de scooter. Il s'est fracassé le crâne dans le quartier Shinjuku. Il a tapé un pylône et il ne s'est même empalé dessus. En fait, il y a eu une opération très grave. Il a été défiguré. Il a eu une de lourdes opérations pour retrouver notamment l'usage d'un côté de son corps. Son visage a été refait. Il a eu quasiment plus d'un an de soins médicaux assez terribles. Mmh. Et je vais citer d'ailleurs une de ses interviews là-dessus. Il le dit donc, je cite, « Je pense que mon accident était un acte manqué. C'était plutôt lié à une accumulation de choses qui me tombaient dessus. Cet accident, c'est comme si un peu je me cherchais à me tuer. Mais même si ce n'était pas un suicide, toutes les pressions que je subissais... ça a provoqué cet accident.
Ouais, certainement. Bah, on est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on est sur un Kitano qui avait je ne sais combien d'émissions de télé à gérer, qui continuait sa carrière d'acteur, de réalisateur, qui s'impliquait aussi de plus en plus. Enfin voilà, et à un moment donné, il a juste claqué un burn-out, quoi, et il a eu un accident de moto qui a été voilà, et qui l'a mis en pause pendant un an, hein, quand même une bonne année, vaste d'opérations, de rééducation, etc. Et alors, pendant cette période-là, et ça va avoir son importance sur un film qu'on va revenir, dont vous avez déjà fait une émission complète, mais oui. Il va se mettre à la peinture, en tout cas, beaucoup plus. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans ses films. Alors déjà, dans Kids Return, où on voit apparaître un peu ces tableaux, mais en fond, simplement, qui ne prennent pas trop une place, jusqu'à Hanabi, où là, carrément, il y a un personnage qui est peint, ça fait vraiment partie de l'intrigue, et qui les complète, et avec des peintures qui sont assez représentatifs de ce qu'il fait au cinéma aussi, en fait. Oui. Cette espèce de mutation de choses, d'associations de contraires aussi dedans, et puis d'aplats, quoi. C'est vraiment beaucoup des aplats.
C'est à partir de cet accident, en fait, où il va redonner un peu plus d'importance de ses personnages sur un côté biographique de sa vie. Mmh. Donc, Kid Return, en fait, notamment avec le côté très comique, notamment la séquence de Manzai, fait forcément référence à son passé d'humoriste. Hanabi, notamment avec sa reconversion, son travail de peinture pour retrouver la capacité de ses membres, mmh, fait forcément penser notamment donc à l'ancien coéquipier du personnage flic qu'il incarne, qui est donc atteint de paraplégie. Et Kikujiro, forcément, il y a de fortes inspirations de son père, qui était un personnage un peu paumé, un peu yakuza sur les bords, même si on ne le savait pas trop, un peu bourru.
Oui, sachant que Kitano lui-même se défend à chaque fois en interview de dire qu'il y a de lui-même dans ses films. Quoi. Vraiment, il est vraiment en parfait désaccord avec ça, mais quand même, on est obligé de faire le lien. En tout cas, moi, la peinture dans Hanabi est évidente. Quoi,
Que les peintures sont de lui-même.
Elles sont de lui-même, voilà. Après, il faut quand même... Kitano, je pense, lui-même, et ses personnages sont des personnages très mélancoliques à chaque fois. Mmh. On parlait, alors déjà, son premier film, Violent Cop, quand bien même le scénario est écrit à la base, on est sur un personnage d'une mélancolie qui recherche presque à en finir, quoi, qui en peut plus, qui est fatigué. D'ailleurs, on a passé la BO, qui est une reprise des compositions d'Eric Satie. Je suis vraiment pas sûr, ça c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais qui sont des musiques qui sont utilisées aussi par Louis Malle dans Le Feu Follet, qui est vraiment sur quelqu'un de dépressif. Erre dans les rues. Donc moi je trouve qu'il y a une inspiration très forte de Louis Malle, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, le fait est que ces personnages sont très mélancoliques, ce qui est le cas énormément aussi de Hanabi, hein, son personnage dans Hanabi, et même dans Sonatine, en fait. Sonatine qui est aussi un film magnifique. D'ailleurs, le film commence avec Kitano qui lâche, qu'il en peut plus, qu'il est fatigué. Son personnage commence comme ça, et ce qui va être assez fabuleux dans le cas de Sonatine, c'est que bon, on a déjà le cadre qui est posé avec cette phrase, hein, voilà. Et il va faire un film de Yakuza, mais pendant un tiers du film, quoi. Mm-hmm. Et ensuite, on va avoir, simplement des personnages qui, qu'est-ce qu'on devient maintenant qu'on a vécu toute une vie de Yakuza et qu'on n'a plus ça, qu'est-ce qu'on est, quoi.
C'est l'une des grandes forces de Kitano, c'est à la fois, en fait, respecter les codes traditionnels du cinéma, mais aussi, forcément, d'infuser et d'impulser en fait pas mal de nouveautés, notamment parce qu'en fait il y a le travail du fond et le travail de la forme chez Kitano. Et c'est vrai que la figure du Yakuza, en fait, c'est un, forcément dans tous les films traditionnels, même japonais, c'est un personnage tragique. Et il a une condition tragique. Et d'ailleurs, Kitano le respecte là-dessus, puisque son sort, en fait, est scellé à l'avance, même avant qu'il apparaît à l'image. Et Kitano, en fait, a plus, d'ailleurs, dans ce que l'on reconnaît à travers sa biographie, en fait, il a plus appris sur la condition humaine lorsqu'il allait voir des films de Yakuza de Fukasaku dans les années 60-70 que lorsqu'il allait à la fac où il apprenait notamment Sartre ou autre. Et il s'est entiché en fait de ces marginaux de la société, c'est pour ça qu'il en a fait pas mal à travers sa filmographie.
Complètement.
Et c'est aussi un certain paradoxe sur le côté, en fait, la violence produite qui provoque forcément un certain malaise, notamment il le dit lui-même aussi, la violence qu'il fait dans ses personnages, en fait, lui provoque un certain mal-être
de et surtout se poser la question de comment filmer cette violence, c'est quand même une question qui s'est beaucoup posée, Kitano.
Mais c'est surtout aussi pour garder la condition Yakuza, en fait, ça reste les personnages de voyous intègres, en fait, qui ont un certain sens du sacrifice.
Ouais, exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Yakuza, la figure est tellement importante chez lui que même quand il joue un flic, t'as l'impression que c'est un Yakuza. Dans un avis, il joue un flic, mais il y a quand même, il est habillé comme un Yakuza. Violent Cop, c'est déjà pareil aussi, tu vois, il y a quand même cette figure-là. Et alors, effectivement, tragique au possible, je veux dire, on sait la fin, elle va forcément être tragique et c'est annoncé dès le départ, c'est acquis dès le départ, et donc à partir de là, c'est qu'est-ce qui se passe durant ce moment où on est encore sur Terre, quoi, en tant que Yakuza. Et alors là, on arrive à un autre élément qui est aussi en contraste avec cette violence de Yakuza et qui est très importante chez Kitano, c'est que le salut des personnages chez Kitano va aller vers un retour à l'enfance.
C'est ça.
Et à l'enfance et à la légèreté, à l'innocence. Sonatine, c'est flagrant puisque la réponse, ils sont qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette plage le reste du film, sachant qu'ils sont entraînés dans la ville un conflit qui va de toute façon les mener tous à leur perte. Ils vont remettre à faire des jeux d'enfants. Alors des jeux d'enfants qui passent par un combat de sumo avec une séquence splendide en stop motion de corps immobiles qui font du sumo, quoi, qui est magnifique. Et puis, quand même, c'est ça que je trouve extraordinaire dans Sonatine, c'est que c'est des jeux d'enfants, mais qui sont quand même remplis d'une tension violente dedans. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ils font une espèce, comme on jouerait aux cow-boys et aux indiens sur la plage, mais c'est avec des vrais flingues et des vraies balles, quoi, qui sont là. Et puis, et des feux d'artifice qui s'envoient dans la tronche. Donc voilà, il y a quand même cette... cette dualité qui existe entre un monde très violent et peut-être que on peut essayer de retrouver notre part d'enfance et de jeu d'innocence là-dedans malgré tout.
Ouais, il y a toujours une certaine dualité paradoxale dans tous ces films, et même comme je le disais un petit peu plus tôt sur ça, ce qu'on appelle sa trilogie de chemin de traverse, donc après son accident et donc ce qu'il a fait, donc Kids Return, Hanabi et Les Tiki Kujiro, donc qui sont des œuvres qui semblent plus personnelles et qui représente en fait la sensibilité du réalisateur, mais qui est toujours caché, développé dans un univers très rude, en fait, très sombre. Donc, Kid Return, à cet aspect-là, Hanabi, on parle quand même d'un flic, en fait, qui va donc essayer de voler de l'argent, d'emprunter de l'argent à des Yakuza, en fait, pour... donner un voyage, un dernier voyage à sa femme, Kikujiro, donc c'est en fait une espèce de rite initiatique avec un gamin et un vieux yakuza, donc ils vont essayer de retrouver sa mère. Il y a toujours comme ça des œuvres, en fait, qui mêlent à la fois des expériences personnelles, qui mêlent fiction vécue du réalisateur, et qui va représenter finalement le concentré d'humanité entre violence et amour, entre désespoir et drôlerie, entre la vie et la mort. Il y a toujours un côté où la mort a une certaine présence dans ces films, et même dans les films qui pourraient être considérés comme plus drôles, parce que c'est un cinéaste qui travaille à mort l'humour noir. Faut pas l'oublier, c'est un mec qui a travaillé par la comédie à la base, c'est un humour et un style à la base qui est inspiré du burlesque, comme je le disais, donc Charlot, Laurel et Hardy, notamment pour son Beat Takeshi qui apparaîtra également dans ses films, notamment à travers différents films, parce que c'est un alter ego, en fait, qui est omniprésent, comme je le disais plus tôt, en fait, c'est quelqu'un où Takeshi en fait doit composer en fait avec un personnage demandé par les Japonais qui donc vampirise à la fois son temps mais aussi son sens artistique, sa veine artistique. Il y a un affrontement idéologique qui se fait finalement en trois films avec donc son Takeshi's, avec Glory to the Filmmaker ou encore Achille et la Tortue. Et on peut le dire à travers ces films-là qu'il y a une sorte de match nul puisque finalement Kitano fait passer Beat Takeshi pour un espèce de paumé dépressif. Et dans un dernier acte aussi, on peut dire que ce dernier, donc Beat Takeshi, en fait parodie la figure de Kitano en fait, à travers ses films consacrés. Donc il y a toujours une certaine dualité à chaque fois. Qui s'équilibre, même si par moment en fait on a l'impression que ça dérive, il y a toujours quand même un équilibre entre les deux, parce qu'il en a besoin.
Il en a besoin, et puis c'est le prix de la liberté qu'il a aussi, hein. C'est quelqu'un qui fait quand même absolument tout ce qu'il veut, c'est-à-dire que voilà, et encore aujourd'hui, c'est marrant, un des derniers films on a pu le voir, c'était le remake de Ghost in the Shell en salle, tu vois, et il s'en fout, et puis il y va, et puis c'est très bien, tu vois.
Non, et puis encore, Ghost in the Shell, voilà, il l'a fait en 2017, je crois, à peu près.
Oui.
Entre-temps, il allait sortir son dernier film Outrage Coda, donc le dernier film de sa trilogie Outrage, donc de Yakuza. Il faisait encore quelques sketchs à la télévision. Le lendemain, tu le retrouves à l'avant-première à Los Angeles pour Ghost in the Shell.
Oui.
C'est ça en fait, Takeshi
Kitano. Et avec des vernissages de ses expositions de peinture qui continuent de se faire à travers le monde. Enfin voilà, il y a quand même, il est toujours dans ce rythme absolument effréné, quoi, de toute façon, Kitano.
Exactement.
Mais comme tu disais tout à l'heure, sa grande période de réalisateur est quand même dans les années 90, quoi. Tu disais, voilà, on a. Bon, alors déjà, ses derniers films, on les a pas, ou alors directement en vidéo en France et en Europe. Là, son dernier, il en a présenté un, Kubi à Cannes. En séance de minuit. Aucune nouvelle d'une distribution ou pas du film. Certainement que non, d'ailleurs. Voilà. Alors que, bon, ben voilà, on parle quand même des années 90. Où Monsieur Kitano avait des prix à Venise, à Berlin, à Cannes. Enfin, pas forcément tout le temps des prix, mais une diffusion, une distribution en Europe. Voilà, quand même, la carrière de réalisateur de Kitano ne s'exporte plus.
Bah, c'est vrai que cela se ressent en fait beaucoup moins dans ses derniers films. Je dirais pas que son panel artistique a disparu, mais par exemple, cinématographiquement parlant, Kitano, en fait, c'est quelqu'un qui est très friand, par exemple, de plans séquences, qui rallonge des scènes, même si l'action est terminé. C'est des effets que l'on voyait très très bien dans ses précédents films, un peu moins dans ses nouveaux films forcément, mais l'aspect contemplatif en fait c'est une de ses forces, de par son montage qui prend son temps, par ses plans purement poétiques. Et je dirais que forcément, son paroxysme, il l'a atteint avec Un habit et L'été de Kikujiro, notamment.
Oui, oui, complètement. Bah, c'est des films, les deux sont des films tout à fait sommes du style Kitano.
Et je pense qu'il a réappris, à travers aussi, d'une certaine manière, par la peinture, de retravailler ses plans à travers ses films.
Oui, complètement. Alors, il y a déjà quand même, dans les premiers Kitano, une composition de plans, de lignes de fuite.
Notamment dans Jugatsu, oui.
Ouais, mais même Violent Cop, tu vois, c'est quand même assez incroyable. Jugatsu aussi. Et alors, Jugatsu est très intéressant par rapport à ça. Parce que tout le film te montre à travers le regard d'un gamin, quoi, aussi. Donc, quand même, cette manière d'épouser le récit par là. Et puis, le burlesque, tu parlais de burlesque, il y a cette séquence très très drôle et cynique dans Jugatsu où son lieutenant doit se couper le doigt parce que l'autre a fait parce que le personnage du Kitano a fait une trahison, a fait une connerie, et du coup, et la scène, il va se couper le doigt, donc ça donne un truc vraiment cruel et tout, et puis il se coupe le doigt, puis en fait il retrouve pas le doigt parce qu'il est tombé on ne sait pas où, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a quand même, on reparle toujours de cette dualité, quoi. Mais en tout cas, effectivement, Hanabi et Kikujiro sont les sommets de Kitano, réalisateur en tout cas, ça c'est sûr, et surtout Kikujiro, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quand même... il laisse de côté le Yakuza. Alors, lui joue quand même un Yakuza dedans, mais on va jamais le voir perpétrer. Il n'y a même aucun lien avec d'autres Yakuza. Ça va être juste...
Quelques détails, notamment ses tatouages.
Ouais, c'est ça. Des trucs infimes ou des choses qui sont mentionnées dans des dialogues, mais vraiment, ça n'a pas vraiment une place importante dans le récit, si ce n'est la confrontation et le vivre ensemble de ce gamin et de Kitano qui joue un Yakuza, la vieille école, qui a toujours une meilleure idée que le gamin, mais qui va jamais fonctionner. Enfin, voilà. c'est vraiment le film qui en tout cas amène le plus de références à Chaplin, Laurel et Hardy, ouais. Au Magicien d'Oz même, parce que la fin on est clairement sur du Magicien d'Oz aussi, enfin voilà, il y a, en tout cas fantaisiste.
C'est surtout en fait aussi ce qui fait partie de son héritage, notamment en télévisuel, car son personnage de Beat Takeshi, qui est connu donc pour un humour pince sans rire, il est donc connu pour des moments où le ton sérieux donc devient pure ironie, qui amène quiproquo et donc forcément en situation ubuesque. C'est l'une de ses forces et qu'il arrive à retranscrire à travers dans ces films-là, notamment donc Kikujiro, Hanabi et même on va dire encore Achille et la Tortue, c'est se concentrer en fait de personnages humains et surtout en fait de ces personnages que j'appellerais kitaniens, car ils affichent en fait un certain dérèglement. C'est-à-dire il y a forcément un côté où le retour à l'enfance sauve les personnages, où il y a un retour en fait au jeu de manière à la fois transgressive et ludique. C'est d'ailleurs une chose dont je vais citer de Kitano, qui l'a écrit dans un de ses livres. J'aimerais préserver indéfiniment ma sensibilité d'enfant. Aussi mature, aussi riche que je devienne, je veux rester intègre et fidèle à moi-même.
Oui, bah c'est de toute façon, et c'est le combat de des personnages kitaniens, clairement, tu vois. Dans Kikujiro, c'est ça, quoi, tu vois. Ouais. Et on a en même temps, c'est ça qui est hyper puissant dans Kikujiro, on a ce personnage que joue Kitano qui veut absolument retourner à l'enfance, qui fait il y a des scènes où il fait n'importe quoi, il y a cette scène où il est dans la piscine, il se retrouve les pieds en l'air,
comme,
voilà,
un canard, ouais.
Comme un canard, tu vois, qui est vraiment une figure burlesque et enfantine. Et de l'autre, on va avoir cet enfant donc toute la traversée que font ces deux personnages, c'est pour aller retrouver sa mère qui n'a pas de nouvelles, et en fait on apprend dans le film que sa mère elle a refait sa vie et qu'elle veut plus le voir en fait. Et donc on a cet enfant qui lui est confronté, va devoir devenir adulte face à ce premier drame, à cette première chose. Sauf que le dernier acte du film est justement tout pour que l'enfance de cet enfant soit conservée, soit préservée malgré tout ça, quoi. Donc effectivement, ce rapport à l'enfance, et qui est aussi ce qu'il fait en tant qu'animateur télé dans ses émissions, est quelque chose de très très important, et d'ailleurs qui constitue pour moi le caractère subversif des films de Kitano, quoi.
Exactement. Pour le coup, on va faire une petite pause bio donc de Outrage, le morceau principal de Keiichi Suzuki.
Thank you.
voilà, donc Outrage, sorti en 2010, dernier film de Kitano sorti en salle française. Ça commence à dater sérieusement.
Ça fait 13 ans, bah dis donc.
Donc oui, on va donc terminer l'émission sur Takeshi Kitano, forcément avec, comme d'habitude, un petit tour de table. Donc quel film retient-on dans la carrière de Kitano ? Il y en a beaucoup. Il y en a forcément
c'est dur, hein.
Beaucoup. C'est bah pour terminer, enfin pour commencer un petit peu là-dessus, je te donnerai un peu la parole
vas-y,
après.
Vas-y, vas-y.
Kitano, en fait, déjà rien que par son nom, en fait, évoque tellement de choses. C'est quelque chose. Pour ma part, en fait, pour définir Kitano direct, je dirais que c'est quelque chose de brut de décoffrage et surtout, en fait, qui a réussi à sortir de l'ordinaire, en fait, le cinéma japonais qui était, on va dire, devenu tellement consensuel dans les années 80, qui avait donc, on va dire, pris la place des Kurosawa, des Fukasaku, qui étaient tellement, tellement vénère à l'époque, on va dire, dans les années 60-70, qu'il a réussi à redonner des lettres de noblesse, en fait, sur du cinéma qu'on en avait déjà vu auparavant, notamment le film de Yakuza, mais pas que, et a donné, insufflé, en fait, vraiment une vraie personnalité que peu de réalisateurs ont réussi à atteindre. Et pourtant, Kitano, c'est l'équivalent de la gaffe au Japon. C'est incroyable de se dire en fait que c'est un mec qui a créé par exemple un jeu qui s'appelle Takeshi's Castle où vous avez une centaine de candidats qui doivent se taper des portes et certaines n'ouvrent pas et donc ils vont à bras le corps, les gens tombent, ils se prennent des balles de volée dans la gueule et compagnie. C'est super. Enfin, vous rigolez parce que bon, c'est une situation complètement ubuesque, c'est débile à souhait et ça marche. Et à côté de cela, en fait, c'est un réalisateur qui a une sensibilité incroyable, pure et innocente, rarement représentée dans un cinéma au niveau international, hein, je parle même pas seulement au niveau japonais, que c'est qu'en fait quelqu'un qui est une figure, comme je le disais auparavant, donc Beat est devenu Kitano, et finalement Kitano a un accord des contraires, c'est quelqu'un qui a une dualité formidable en fait. Et voilà, j'avais envie de dire aussi, mater des épisodes de Takeshi's Castle, parce que je suis sûr que c'est super drôle. Mais si je dois retenir forcément plusieurs films, bah, je retiendrai notamment sa trilogie Chemin de Traverse, mais surtout Hanabi et Elite de Kikujiro. Hanabi, c'est un film qui montre une certaine façon de jouer sur le drame qui est formidable, de travailler sur l'humour noir et à la fois en fait de travailler sur un ton à la fois sérieux et surtout en fait il a une capacité incroyable, je trouve, ce réalisateur, en fait, à mener en bateau son spectateur, c'est-à-dire que vous allez vous attendre à voir un vrai film de Yakuza ou un vrai film noir et en fait non, il va vous parler d'un drame humain, d'un drame d'un couple qui va forcément être en lien avec la mort, car en fait une des deux personnes va devoir mourir, va mourir et annoncer comme mourante en fait, et donc va devoir le deuxième va devoir en fait faire ce qu'il faut pour lui redonner un semblant de joie de vivre avant de passer à l'acte en fait, tout simplement.
Bah ouais, super. Bah c'est compliqué de. Voilà. C'est très bien, non, très bien. Alors, écoute, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est drôle, moi, donc j'ai quand même découvert tous ces premiers films il y a peu de temps à Kitano, et moi je le rapproche beaucoup d'un Clint Eastwood et Takeshi Kitano en tant que cinéaste.
Par son côté humain.
Par son côté humain, et on est aussi, tu vois, Kitano commence avec une sorte de Dirty Harry avec Violent Cop,
oui,
tu vois, un
je
truc
vois
sans foi ni loi, tu vois, et qu'on a comme image, et on a une image pareille où on lui accroche un truc, soit de Yakuza violent, soit de truc drôle, et comme Eastwood a réussi à faire un des plus beaux mélos au monde avec Madison, Kitano arrive à faire Hanabi et Kikujiro, tu vois, qui sont des monuments de poésie incroyables. Donc, évidemment, c'est les deux-là qui m'ont le plus bouleversé, mais en fait, comme je les ai regardés dans l'ordre, je vais quand même parler d'un film dont on n'a pas encore mentionné d'ailleurs, là, aujourd'hui, qui est le premier où j'ai vraiment pris ma petite claque Kitano, c'était A Scene at the Sea, qu'il fait avant Kids Return, et qui est pour moi, en tout cas quand je l'ai vu, dit ok, effectivement, je vois un très grand réalisateur. C'est-à-dire qu'on est un film où on suit deux amoureux jeunes qui sont sourds et muets. tous les deux, dont un a un rêve, c'est de surfer. Voilà, donc il récupère au début une planche de surf, il est boueur et il récupère dans la rue une planche de surf, et puis il va s'essayer à faire du surf, et puis il y a une bande d'amis qui vont être avec eux, qui vont aussi faire du surf, et puis il va y arriver, et jusqu'à et puis sa compagne, sa copine va l'accompagner, etc., jusqu'à la fin qui était écrite depuis le début. Il va forcément disparaître à l'intérieur de la mer qui va l'emporter complètement. Et en tout cas, là où A Scene at the Sea m'a vraiment bouleversé, c'est que, comme je l'ai dit, les personnages étant sourds et muets, il n'y a aucun dialogue verbal qui passe par eux, et même Kitano va encore plus loin, alors pour montrer leur amour, auquel on croit en regardant le film, c'est qu'ils s'échangent presque aucun regard même. Et là, j'ai été fasciné de voir, mais comment, Kitano, tu arrives à me faire ressentir cet amour profond qu'il y a entre les personnages alors qu'il n'y a aucune communication verbale ou non-verbale qui passe entre eux?
Il refait quasiment la même chose dans Nabi d'ailleurs.
Et exactement.
Avec ce personnage de flic, en fait, qui est très dur sur lui-même, où on pense qu'il a vraiment un côté très, très strict, en fait. Il a une capacité, en fait, à être très, comment dire, très ouvert face à sa compagne, et notamment à faire, par exemple, ce fameux, d'où le titre du film, Anabik, en fait, donc qui veut dire fireworks, donc feu d'artifice, et donc il va faire tout ce feu d'artifice aussi pour sa femme qui est d'une beauté incroyable. En fait, il va jouer sur le travail des actes et pas seulement sur le travail de la parole.
Exactement.
C'est quand même contraire par rapport à ce qu'il a fait à ses débuts en tant qu'humoriste et notamment le Menzai.
Mais là, c'est là qu'il a une vraie intelligence de cinéaste, c'est-à-dire qu'il manipule le langage cinématographique à la perfection, quoi. Et en tout cas pour A Scene at the Sea, voilà, on a vraiment quelqu'un qui part la composition de ses cadres, par le montage, encore une fois, Kitano s'occupe du montage, donc le rythme, tout ça, et la magnifique composition de Joe Hisaishi aussi, qui est pour moi une des plus belles. Voilà, je trouve que c'est pas le monument que sont Kikujiro et Hanabi, mais Scene at the Sea, c'est un film qu'on cite très rarement quand on parle de Kitano, et pour moi c'est un de ses plus beaux, et regardez-le si vous ne l'avez pas encore vu, quoi.
On parle beaucoup de Hanabi et Kikujiro, je pense, ça c'est mon avis propre, mais je pense qu'en fait c'est la recette Kitano, en fait, elle a mis du temps, en fait, à se mettre en place, et je pense qu'en fait c'est la quintessence de son cinéma à travers ces deux films.
Bien sûr, et puis si on demandait quel Kitano regarder, on dirait certainement les deux là en premier, pour avoir une porte d'entrée tout à fait révélatrice, pardon, du cinéma de
Kitano. Et même à côté de cela, son cinéma reste toujours très passionnant. Son Zatoichi, qui fait forcément, certes, très film commercial, parce qu'il voulait vraiment faire un vrai succès au Japon, marche bien, parce qu'il a vraiment aussi cette capacité à travailler, comme je le disais auparavant, sur son ton d'humour noir, sur sa capacité en fait à mettre en déroute l'attente du spectateur pour passer à autre chose et le surprendre positivement d'une certaine manière. Et c'est vrai que il a aussi cette capacité d'une certaine manière aussi à ne pas oublier en fait son public original, donc notamment par l'humour, ce qu'il fait notamment avec Takeshi's Glory to the Filmmaker ou encore Achille et la Tortue. Alors c'est vrai que Takeshi's, en fait, c'est peut-être un film un peu plus complexe d'une certaine manière, j'irais complexe par sa description, parce que c'est un film qui est forcément très méta, qui travaille sur la dualité, ce qu'on voit, donc Kitano contre Beat Takeshi, donc Glory to the Filmmaker, là, peut-être même encore le film encore plus méta, parce que donc c'était carrément, on est quasiment sur du film à sketch, sur de l'humour donc très japonais, donc c'est très marqué sur le burlesque et l'intonation et forcément la situation par l'humour. Mais toujours est-il qu'en fait, Kitano a toujours cette personnalité, cette diversité que peu de réalisateurs ont réussi à atteindre. Et c'est l'une de ses grandes, grandes forces là-dessus. Et c'est vrai que donc, pour rebondir encore un peu sur Hanabi et Kikujiro, il a cette capacité, en fait, je pense déjà, ça a été très intelligent de sa part d'avoir pris Joe Hisaishi pour la composition. Et surtout, en fait, sa capacité d'avoir un casting, en fait, qui n'est pas là que pour valoriser le personnage de Kitano.
Il
est là aussi pour laisser la place aux autres.
Complètement. Alors, tu as complètement raison. Déjà, il y a quand même des acteurs qu'on retrouve régulièrement. Il est quand même bien s'entouré de cette même équipe.
Il a toujours une bande d'amis. Hein, donc,
Et puis, tu vois, on parlait de personnages secondaires. Je veux dire, il n'y a pas de personnages secondaires presque dans les films de Kitano, quoi. Dans Hanabi, tu vois, il y a ce concessionnaire automobile qui lui prête une voiture, où il dit, bon, on va le voir une fois. Et non, il a tout un parcours. parcours, il a tout un chemin à lui, et Kitano prend le temps de le filmer, de faire des longues séquences sur lui.
Il faut le savoir, c'est un de ses grands amis, qui est également comique, et du coup, il apparaît dans pas mal de ses films aussi.
Mais c'est assez incroyable, c'est-à-dire que tu commences un film de Takeshi Kitano, tu te dis, ah, ce personnage-là, bon, bah, c'est juste pour cette scène, et non, tu vas le retrouver après, et il prend le temps de filmer chacun de ses personnages, aussi petit qu'il soit, et ça doit être son côté communiste, hein, j'imagine, à Kitano, hein, de vraiment vouloir filmer absolument, prendre le temps de filmer chacun et chacune. Et en tout cas, pour finir aussi, tu parlais de Joe Hisaishi, c'est quand même l'occasion de dire, je pense que tout le monde connaît ses compositions pour le cinéma de Miyazaki et de Ghibli, à Joe Hisaishi, qui sont très bien.
Je trouve qu'il fait du meilleur travail avec Kitano.
En tout cas, si vous avez fait le tour de tous les Miyazaki, moi, on vous conseille vraiment d'écouter ses compositions pour Kitano, qui sont fabuleuses et magnifiques, vraiment.
Exactement. Alors ouais, pour aller terminer vite fait un petit peu dans cette émission, parce qu'on a encore un petit peu le temps, c'est la force de Kikujiro, en fait, c'est cette capacité en fait à émouvoir dans tous les instants. C'est une chose que je pense Kitano a peut-être, je dirais pas qu'il avait pas réussi à faire ça auparavant, parce que c'est totalement faux, parce que Hanabi est déjà bouleversant là-dessus, mais en fait il a réussi à donner une simplicité dans son intrigue, dans ses personnages, et même si on sent très facilement ce qui va arriver par la suite, parce que c'est vrai qu'en fait il a un sens de la tragédie qui est parfaitement exemplaire dans ses œuvres. Kitano en fait a toujours cette faculté en fait de donner une réelle avancée dans sa volonté de suivre en fait son histoire.
Ouais.
Il a donc ce moment d'intrigue, donc qu'on suit d'abord cet enfant perdu, finalement il va être donc entouré et s'entiché donc notamment des paumés en fait de la ville en fait, et du coup qui est notamment en partie représenté par Kitano, et c'est ça en fait qui est la force de ce réalisateur, c'est que il va pas forcément mettre sociologiquement un piédestal pour chaque personnage.
Non.
En fait chaque personnage est égal en lui-même dans quasiment tous ses films.
Ah ben complètement, et puis c'est surtout les marginaux quoi qui sont intéressants pour lui. Ouais. D'ailleurs le premier personnage qu'on voit dans les Yakuza, et puis le premier personnage qu'on voit dans la filmographie de Kitano, c'est un clochard, quoi.
Ouais.
Dans Violent Cop, qui va se faire tabasser par des gamins. En tout cas, voilà, ça va être, voilà, on va parler des personnages à côté. On va parler des personnages qui sont invisibles, qui sont en lutte avec eux-mêmes et en lutte contre en tout cas, la société qui leur pèse sur eux, en tout cas.
Et c'est une chose qu'il va même refaire pour son premier et son seul film qu'il va réaliser hors au Japon, donc Aniki mon frère, qui a également cette même situation là, donc c'est-à-dire des personnages qui sont sortis de leur leur endroit géographique, de leur contexte social, qui va donc vouloir en recréer un autre ailleurs, ce qui est un peu le cas également donc dans Sonatine. Mais il y a toujours cette volonté tragique, cette vraiment dimension tragique à la grecque, où il y a toujours quand même un personnage qui va d'une certaine manière s'en sortir, qui va être soit les autres vont mourir d'une certaine rédemption, soit il y en a en fait qui est toujours là en fait pour être le garant de la mémoire des autres.
Oui, complètement. Et après je pense qu'il nous plaît le plus sur Kikujiro par exemple dans tout ça, c'est qu'il s'écarte vraiment de la violence en fait. Et qu'on trouve incroyable, parce que bon, les scènes de violence chez Kitano sont très très bien filmées avec des idées qui sont à chaque fois incroyables. D'ailleurs il avait cette phrase, comment bien filmer la violence, le plus important c'est pas de filmer celui qui donne les coups, c'est de filmer celui qui les reçoit. Ce qui est tout à fait révélateur aussi de comment il écrit ses personnages.
Il suffit de voir par exemple la séquence d'introduction d'Hanabi où il y a quasiment pas de son, où donc l'intervention policière se déroule mal aussi, et notamment son t'es dans le centre commercial où le camarade donc affilié de Kitano en fait donc va se prendre une balle dans le bide, et ce plan est directement vu du point de vue de Dieu, donc le vu du dessus, et donc on voit l'impact directement.
Ouais, complètement. Et non, je pensais que tu parlais de la première scène de Hanabi où il y a les gamins qui sont au-dessus de sa voiture et du coup il leur file une raclée parce qu'il aime pas qu'ils touchent la voiture. Enfin, voilà, c'est quand même des personnages qui sont. Mais c'est là qu'il est très fort, c'est que la plupart du temps, au départ, c'est des personnages qui sont antipathiques quand même à mort. Je veux dire, tous, Hanabi, c'est pas gagné que tu vas pleurer sur son sort
et surtout
pendant le film.
Et surtout, c'est un peu malheureux, mais je pense qu'il en joue forcément avec. Depuis son accident de 94, ouais. En fait, il a des tics, une certaine paralysie faciale, et ce qui donc le rend encore plus menaçant dans ce genre de personnage.
Complètement, ouais, ça lui donne une couleur inquiétante à ses personnages, ouais, ouais, très, 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 très fort. Mais voilà, il y a quand même, c'est toujours des chemins de rédemption pour aller à la fin, en tout cas, la plupart du temps, vers la fin du personnage, en tout cas, la fin de parcours.
La rédemption est possible, mais la conclusion est toujours néfaste.
Ouais, mais ça, oui, mais tu vois, la mort n'est pas un.
Oui, c'est.
C'est pas que la mort n'est pas une fin, mais c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de forcément dramatique chez Kitano.
Il le dit
lui-même. Dans Hanabi, la mort des deux personnages, c'est une résolution. Leur chemin s'arrête là, oui, et ils ont réussi à entreprendre ce qu'ils voulaient entreprendre, tu vois. Donc, Sonatine, c'est pareil. Je veux dire, il se suicide comme c'était de toute façon dit. Enfin, c'est pas dit dans le film, mais c'est déjà écrit d'avance. Ils vont tous mourir. Il se suicide face à la mer, et parce que c'est comme ça que ça devait terminer, tu vois.
Il y a toujours une réflexion très japonaise, et il le dit à lui-même. En fait, c'est que on ne choisit pas de vivre, on ne choisit pas de naître, mais on peut choisir comment mourir.
On peut choisir sa mort, ouais, ouais, complètement. Et du coup, mais c'est en ça qu'il est subversif, c'est-à-dire que on parle d'une société japonaise ultra, ultra conservatrice quand même. Et à l'intérieur de ça, Kitano va exposer cette morale pesante, cette violence qui traîne, dans l'univers des Yakuza la plupart du temps, qui ont eux-mêmes leur code, qui ont même leur mode de vie, mais qui vont devoir pouvoir à un moment donné retourner à leur enfance, retourner à la part d'innocence qu'il y a en eux pour pouvoir mourir comme ils le désirent.
De façon digne et sans, nette et sans bavure,
oui,
comme on peut
dire. Nette et sans bavure, voilà.
Pour le coup, donc, on va s'arrêter là-dessus avec un morceau, donc, forcément, de Joe Hisaishi, l'été de Kikujiro. Merci Sébastien, et donc on revient à la semaine prochaine pour de tout nouvelles aventures. Ciao tout le monde.
Ciao.